RCF.
RCF Rivage, une fois pour tous.
Continuons avec vous, Père Yves Saout, à parler de l'étranger dans le Nouveau Testament. Alors, on connaît bien ce passage où Jésus envoie ses disciples évangéliser toutes les nations, spécialement chez Matthieu, où il dit « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples ». Alors, tout de suite, on voit que cette bonne nouvelle, elle est pour tous. Mais c'est la fin de l'Évangile.
C'est la fin de l'Évangile, oui, parce que c'est la passion et la résurrection qui sont déjà la venue du royaume de Dieu. Il reste bien sûr une étape, mais elle ne sera pas... Elle sera nouvelle par la manifestation glorieuse, mais le royaume de Dieu est déjà présent par la résurrection de Jésus, et donc le moment est venu de présenter la bonne nouvelle à tous les peuples. Au début des Actes des Apôtres, il leur demande d'être témoins à Jérusalem, en Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités ou jusqu'aux frontières de la terre. On pense que c'est Luc qui donne un peu le plan de son livre à travers ces paroles de Jésus, puisque dans les premiers chapitres, les apôtres sont à Jérusalem. Ensuite, Pierre va aller en Samarie, à Césarée. Ensuite, avec Paul et d'autres missionnaires, ils vont aller dans tout le bassin méditerranéen.
Oui, puis il ne faut pas oublier ce passage qui est au tout début des Actes des Apôtres de la Pentecôte. De la Pentecôte où ce jour-là, quand l'Esprit va être donné, c'est un jour où il y a des personnes de toutes les nationalités connues, j'allais dire, à cette époque-là, à Jérusalem.
Ce sont des Juifs ou des adhérents de la religion juive, des étrangers qui ont adhéré à la religion juive, peut-être pas la circoncision, mais au moins la foi en un Dieu unique et la foi dans les Écritures. Mais beaucoup d'entre eux ont une langue maternelle qui n'est plus celle des habitants d'Israël. Beaucoup parlent la langue là où ils sont nés. On sait que les Juifs d'Alexandrie, par exemple, au nord de l'Égypte, avaient traduit l'Ancien Testament en grec parce que leur fils ne connaissait plus l'hébreu ni l'araméen. Et en plus, ils voulaient aussi présenter leur texte sacré aux Grecs de la ville. Donc là, le récit des Actes dit que chacun comprend dans sa langue maternelle. Et donc, lorsqu'on dit que la Pentecôte est l'anti-Babel, c'est pas tout à fait exact. Parce qu'à Babel, dans la Genèse,
avec une seule langue,
toute l'humanité avait une seule langue et ils occupaient le même territoire. Alors autrefois, on disait que Dieu les avait punis en les dispersant. Et aujourd'hui, il faut maintenir bien sûr que Dieu va contre leur projet d'orgueil et de totalitarisme, mais que c'est un bienfait. En les dispersant sur toute la terre et en multipliant les langues, c'est un bienfait que Dieu leur donne parce que c'est contre le totalitarisme.
Alors, on peut vraiment préciser aussi qu'on aurait pu penser que chacun allait comprendre la langue de Pierre. Non, chacun ne comprend pas la langue de Pierre, c'est chacun comprend dans sa propre langue ce que Pierre va dire. Pierre devait parler, je ne sais pas, en araméen, et en fait chacun comprenait dans sa propre langue. Donc il y a une diversité dans la compréhension aussi. Vous qui êtes missionnaire, ça doit vous parler.
Ils étaient tous déconcertés. Ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que chacun, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Donc c'est pas le miracle, c'est pas qu'ils comprennent la langue de Pierre, c'est que chacun entend les merveilles de Dieu dans sa propre langue. Oui, le problème des langues dans la question de l'étranger est capital. Je vois même ceux qui n'ont pas beaucoup de temps à passer en Afrique, par exemple, mais qui font l'effort d'apprendre au moins à dire bonjour dans la langue des gens, il y a déjà une gratitude de la part des gens de voir qu'on a fait cet effort. Et quand on passe beaucoup d'années et qu'on fait l'effort d'apprendre la langue, même très locale, même parlée par peu de gens, c'est vraiment une manière d'entrer dans la culture des gens. On ne devient jamais tout à fait inculturés, même pas acculturés peut-être, mais on commence à communier quand même à beaucoup de choses avec eux.
Il n'est pas de peuple sans langue, il n'est pas de peuple sans mots, pas de peuple qui ne puisse se comprendre, quel que soit le rythme ou le tempo. Ensemble risquons la parole, celle qui vient de loin de haut, celle qui révèle la bonne nouvelle pour tous les temps nouveaux. Au commencement était la parole, parole de création. Aujourd'hui elle est là près de toi, dans ta bouche et puis dans ton cœur. Elle est cette vie au creux de toi, d'où jaillissent mille couleurs. Il n'est pas.
Continuons ensemble ce parcours du Nouveau Testament. Nous sommes arrivés aux Actes des Apôtres. Alors, Père Yves Saout, on va s'arrêter sur ce passage très important de Pierre chez Corneille dans les Actes au chapitre 10, à partir des versets 11. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cette histoire ? Pierre va se retrouver face à quelqu'un qui ne mange pas de la même façon que lui.
Je raconte souvent cette histoire sans la lire. Les détails du récit me sont assez familiers. Je ne vais pas reprendre l'ensemble, ça serait trop long. Mais on commence par nous dire qu'à Césarée, donc là où réside le préfet romain, il y a un détachement de l'armée romaine, en particulier des gens originaires d'Italie. Et parmi eux, il y a donc un capitaine, un centurion, qui commande 100 hommes et qui est devenu sympathisant de la religion juive. Il prie beaucoup, il fait des aumônes aux pauvres du peuple juif. Et un jour, qu'il est en prière à 3h de l'après-midi, il a la visite d'un ange qui lui dit de faire venir un certain Simon, surnommé Pierre, qui se trouve là où se trouve Tel Aviv aujourd'hui, c'est la banlieue de Tel Aviv, Jaffa, mais dans les Actes, ça s'appelle encore Jopé. Et Pierre est là, chez un juif. Il a déjà transgressé un peu certains interdits, parce qu'il est chez un fabricant de ceintures et de courroies, et pour les pharisiens, c'est un métier impur, parce qu'il touche des cadavres pour prendre les peaux des bêtes. Donc Pierre est déjà un peu chez un homme considéré comme impur par les plus fervents des Juifs. Mais quand il a une vision, lui aussi, d'en train de prier sur la terrasse.
Donc, qu'est-ce qu'il prie aussi ? Pierre prie sur la terrasse ?
Oui, à l'heure de midi.
Au même moment, presque. Ah non, à l'heure de midi.
À l'heure de midi. Et puis c'est le lendemain.
C'est le lendemain.
Il a faim, il demande sans doute à la femme du courrier de lui préparer à manger, mais il a une extase à ce moment-là. Il voit une espèce de tente qui descend du ciel avec tous les animaux dans la tente. En tout cas, on nomme les quadrupèdes, les animaux à quatre pattes, les reptiles, ceux qui rampent sur leur ventre, et puis les oiseaux du ciel. Il manque les poissons, mais à part ça, c'est les animaux selon leur espèce, comme dans le livre de la Genèse. Et une voix lui dit, « Pierre, mange, tue et mange, ou immole et mange. » Il dit, « Non, Seigneur, jamais je n'ai mangé d'animaux impurs, interdits aux Juifs, et donc c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. » Et la voix lui dit trois fois de manger. Puis tout est emporté au ciel à nouveau.
Donc c'est une vision.
Oui. Et Pierre se demande, qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que le Seigneur Jésus ressuscité a voulu me dire à travers cette vision ? Il ne comprend pas. En fait, il a lu cette vision à travers le livre du Lévitique qui distingue les animaux purs et les animaux impurs. Il ne s'est pas rendu compte que c'était selon la Genèse, qu'il fallait voir les animaux selon leur espèce. Mais la voix lui a dit trois fois, « Ce que Dieu a purifié, toi ne dis pas que c'est impur. » Et au moment où il est perplexe, où il se demande qu'est-ce que ça veut dire, voilà les envoyés de Corneille qui arrivent. Et l'Esprit dit à Pierre de les accueillir et de les suivre sans scrupule. Bon, il commence par leur donner l'hospitalité chez celui qui lui a lui-même donné l'hospitalité. Et le lendemain, il part avec eux. Et l'Esprit lui a dit de les suivre sans se faire de scrupules. Quand il arrive à Césarée, Corneille a réuni des amis, des soldats, des membres de sa famille ou toute sa famille. Et il sort à la rencontre de Pierre et il veut se prosterner. Pierre lui dit non, relève-toi, moi je ne suis qu'un homme aussi. Et en rentrant chez Corneille, quand il voit toute cette assemblée, il est un peu pris à la gorge. Il dit, vous savez, pour un juif, c'est un interdit absolu de rentrer chez un païen ou de manger, d'avoir des contacts avec eux. Mais à moi, Dieu vient de me montrer qu'on ne doit déclarer impur aucun homme. Donc il a quand même enfin compris, peut-être pendant le jour et demi où il a marché là avec les envoyés de Corneille, il a finalement compris le sens de sa vision.
Donc Corneille, c'est le premier en fait, c'est le premier, des apôtres qui va enfreindre vraiment cette barrière entre les païens et les juifs.
C'est le premier qui va même annoncer la bonne nouvelle à des non-juifs. Et plus que ça, quand il fait son petit discours pour annoncer Jésus et la résurrection, il commence d'ailleurs par leur dire « Vous savez ce qui s'est passé en Galilée et à Jérusalem. » Et l'Esprit-Saint lui coupe la parole. En tombant sur Corneille et toute l'assemblée, ils se mettent à louer Dieu, à parler dans des langues inconnues. Pierre était venu accompagné de 6 chrétiens de Joppé, des juifs devenus chrétiens, qui sont tous aussi sidérés de voir que l'Esprit-Saint est donné à des non-circoncis, comme ils disent. Et Pierre leur dit, est-ce qu'on peut refuser le baptême à des gens qui ont reçu l'Esprit-Saint tout comme nous au commencement? Et donc il les fait baptiser. Mais Corneille lui demande de rester avec les 6 compagnons pendant quelques jours. Donc là, on a pour la première fois une communauté chrétienne formée de juifs et de non-juifs. On peut penser même que Pierre a fait l'Eucharistie avec eux à la fin d'un repas, comme ça se faisait au début de l'Église. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que quand il va rendre compte à Jérusalem aux autres apôtres qui le grondent, ils lui font des reproches, il va dire « Nous sommes entrés chez l'homme en question ». C'est une traduction, bien sûr, mais c'est assez bien trouvé. C'était vraiment l'homme qui était en question dans ce récit. Qu'est-ce que c'est un homme? Et Pierre dit qu'il voit que Dieu ne fait pas de différence entre les personnes, mais que dans toute nation, celui qui l'honore et qui pratique la justice est aimé de lui. Et qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce récit? C'est que ce que Dieu voulait, c'est pas tellement que Pierre prêche à Corneille. Il lui dit, vous savez ce qui s'est passé. Ce que Dieu voulait, c'était la communication. Et c'est pourquoi dans ce récit, beaucoup de choses sont répétées plusieurs fois. La vision de Pierre est répétée, la vision de Corneille est répétée. C'est la communication qui est en jeu dans ce récit.
Salam à shalom, shalom à salam. Déposons les armes pour que vive l'homme. Shalom à salam, salam à shalom. La vie nous proclame paix à tous les hommes. Ni les larmes, ni les cris n'ont jamais d'accent. Toujours au bout des fusils, la même couleur du sang. La 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 la. Déposons les armes pour que vive l'homme. Shalom, salam, salam, shalom.
Père Yves Saout, vous nous avez dit que c'était Pierre le premier qui allait baptiser des noms juifs. Et pourtant, on pense souvent que c'est Paul qui a été l'apôtre des nations, plus que Pierre. Alors on va le retrouver entre autres dans les actes des apôtres, ce rôle prééminent de Paul, par exemple dans les actes au chapitre 22.
Paul se défend devant les juifs de Jérusalem, qui l'ont presque lynché.
Parce qu'il avait été vers les païens.
Oui. Alors il raconte sa conversion et il ajoute « Un jour que j'étais en prière dans le temple, donc ce qui est quand même un lieu sacré pour les juifs, j'ai eu une extase et le Seigneur Jésus m'a dit « Vite, quitte Jérusalem sans tarder, car ils n'accepteront pas le témoignage que tu me rendras. » Alors Paul répond « Seigneur, ils savent bien que c'est moi qui allais dans les synagogues pour faire mettre en prison et battre de verge ceux qui croient en toi. » Et lorsque le sang d'Étienne, ton témoin, a été répandu, moi aussi j'étais là et j'approuvais ces meurtriers et je gardais leurs vêtements. Mais il me dit, va, c'est au loin vers les nations païennes que je vais, moi, t'envoyer. Donc ce n'est pas exclusif, mais Paul a quand même été surtout l'apôtre des païens, même si habituellement dans les villes où il arrivait, il commençait par aller dans la synagogue s'il y en avait une. S'il y avait des juifs qui habitaient là, il allait d'abord dans leur synagogue. Mais habituellement, il a été mieux accueilli par les païens que par ses frères juifs.
Alors ces questions de païens, non-païens, circoncis, non-circoncis, on va le retrouver dans la première assemblée, la fameuse assemblée de Jérusalem, où il va y avoir une polémique face à l'accueil ou non de ces personnes qui ne viennent pas de la religion juive.
Une discussion assez longue ou assez vive selon les traductions. Est-ce qu'il faut exiger des païens qui adhèrent à Jésus de se faire circoncire pour entrer dans le peuple d'Israël qui, aux yeux des apôtres de certains d'entre eux, en tout cas et des pharisiens devenus chrétiens, est le seul peuple de Dieu. Donc pour être sauvé, il faut entrer en Israël, il faut être circoncis. Mais Paul et Barnabé défendent la liberté des païens de croire en Jésus sans être de religion juive, enfin sans pratiquer toute la loi de Moïse.
Et Pierre non ? Pierre ne défend pas ça, lui qui a eu la fameuse extase pour comprendre qu'il fallait qu'il accueille Corneille et sa maison.
Alors justement, quand la discussion est vive là, entre Paul et Barnabé d'un côté et puis les autres, les anciens et les apôtres, Pierre se lève et dit... Bon, je traduis à ma manière, hein, je paraphrase. Pierre, au fond, leur dit, écoutez, c'est pas une invention de Paul et de Barnabé. Ça m'est arrivé à moi d'abord. Et c'est pas quelque chose de tout récent avec le voyage de Paul. C'est arrivé dans les premiers temps quand j'étais à Jopé et que je suis allé chez Corneille. Et j'ai vu que Dieu accordait sa grâce à ceux qui croyaient en Jésus, tout comme nous, au commencement, on avait reçu de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, eux, l'ont reçu aussi.
Donc il y a une confirmation de Pierre de ce que disait Paul.
Oui, il a montré que ce n'était pas une invention récente d'un converti, plus ou moins, que certains doutaient de la valeur de la conversion de Paul. Mais lui, il a affirmé avec son autorité que c'était vraiment les voies de Dieu qui se réalisaient là.
Alors aujourd'hui, on pense à un des successeurs de Pierre, bien sûr, au pape François, et qui nous envoie vers ce qu'on appelle les périphéries, enfin ce qu'il appelle lui-même les périphéries. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu similaire ?
Oui, je pense que l'Église doit toujours essayer d'aller vers les autres, s'ouvrir à ceux qui ne sont pas dans l'intérieur de l'Église. Et d'ailleurs, Jean-Paul II avait déjà dit que si saint Paul a rencontré l'aréopage d'Athènes, il y a beaucoup d'autres aréopages aujourd'hui qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle, comme les milieux scientifiques, les universités, enfin beaucoup de lieux de notre monde aujourd'hui qui ne sont pas évangélisés et qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle.
On s'apprêtait à m'étrangler, j'ai franchi le couloir, avançant dans le noir. Au milieu de cris de désespoir, j'ai sauté sur un mur hérissé de ferrures, acéré m'entaillant comme des lames. J'ai rampé à genoux dans des conduits d'égout pour éviter l'acier de leurs armes. J'ai marché essoufflé jusqu'à la voie ferrée.
Là j'ai bien cru que c'était gagné.
Qu'ai-je pris, qu'ai-je fait? Sans histoire je vivais. Qu'ai-je dit, dites-moi qu'ai-je fait?
Pas le même pays, pas le même parti, pas le même Dieu, non pas le même. Pas les mêmes idées, pas les mêmes habits, pas la même langue, non pas la même. Pas le même accent, pas le même genre, pas le même sang, non pas le même. Pas la même couleur, pas la même odeur, pas la même peau, non pas la même.
Nous arrivons au terme de ces émissions sur l'étranger dans la Bible, et il y a certaines phrases, certains mots de Paul qui sont assez incroyables encore aujourd'hui. Par exemple, quand Paul dit dans les Galates au chapitre 3 verset 28, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous n'êtes qu'un en Jésus. Donc il n'y a plus ni juif ni grec. Ça veut tout dire.
Paul a eu cette expérience sur le chemin de Damas qui lui a montré que Jésus était le Seigneur de tous. Et il a reçu une vocation spéciale pour aller vers les païens. Alors, il ne nie pas que c'est bon d'avoir un territoire, une langue, d'être d'une patrie. Mais il dit, en Jésus, il n'y a plus d'hostilité, il n'y a plus de différence fondamentale entre quelqu'un qui est du peuple que Dieu avait choisi auparavant et quelqu'un qui n'en est pas. Il dit, la lettre aux Éphésiens dit que autrefois vous étiez étrangers et émigrés par rapport au peuple de Dieu, maintenant vous êtes concitoyens, vous êtes membres du peuple de Dieu.
Concitoyens. Est-ce que c'est l'expérience que vous avez vécue vous-même, Père Yves Saout, en ayant vécu entre autres en Amérique latine et puis longtemps en Afrique? Est-ce qu'on peut dire que vous vous sentez concitoyen de ces peuples?
On est d'abord, d'après la lettre aux Éphésiens, on est concitoyen du peuple de Dieu, donc de Jésus, en Jésus. Mais de fait, ça se traduit par une fraternité très, très concrète. Je pense à ce jeune curé avec qui j'ai vécu les trois dernières années. Quand je suis arrivé, il n'avait pas encore un an d'ordination, il lui manquait 3 jours. Moi, j'en avais 48, mais on est vraiment devenus comme des frères. Parce que on a la même foi, on a le même travail pour l'évangélisation et la pastorale des chrétiens et la catéchèse des non-chrétiens.
Alors c'est aussi une expérience que peuvent vivre les jeunes qui vont au JMJ, par exemple, quand ils se retrouvent avec des jeunes du monde entier. Ils sentent qu'il y a quand même un esprit de famille. Mais comment on fait avec ceux qui n'ont pas la même foi?
Alors, pour ces jeunes-là, c'est peut-être au retour, quand ils vont rentrer chez eux et qu'ils pourront témoigner de ce qu'ils ont vécu d'extraordinaire, de fraternité, de joie, de partage, de découverte aussi de ce que vivent les autres.
Oui, mais ce n'est pas toujours facile d'être avec des personnes qui pensent différemment ou avec des étrangers qui arrivent sur ce qu'on pense être notre propre territoire et qui ont une religion différente.
Ce n'est pas facile, non. Il faut avoir un a priori d'ouverture et devant un geste qu'on ne comprend pas, par exemple, se dire probablement il y a quelque chose que je dois apprendre, que ce geste-là ne signifie pas la même chose pour eux que pour moi. Il y a un a priori que la foi donne. Quand on a cette foi qu'il n'y a plus ni grec ni juif, comme dit saint Paul, en Christ, on a un a priori favorable et au lieu de faire des jugements prématurés, on attend un peu, on patiente, on se dit « je comprendrai peut-être mieux après ».
Est-ce qu'on peut parler de a priori de bienveillance?
D'ouverture et de bienveillance, oui, je crois.
Mais on peut se faire avoir?
Oui, on peut aussi se faire avoir, comme on a vu au début de la première émission avec le Siracide, que on peut avoir beaucoup de tracas quand on accueille l'étranger chez soi, mais il s'agissait sans doute d'étrangers de haut rang que lui-même recevait comme personnage de haut rang.
Mais aujourd'hui encore, on peut se faire avoir aussi quand, par exemple, l'un de nos enfants épousé par une personne qui veut la nationalité française et puis qui finalement après part, ou on sait que certains ont vécu des expériences malheureuses avec des personnes étrangères. Alors, comment garder ce cœur ouvert, ce cœur hospitalier? Une chose qui me parle toujours beaucoup, c'est aussi de cette parole de la Bible qui dit que peut-être qu'on peut accueillir un ange.
On peut
accueillir un ange.
Ben, c'est le texte qu'on a eu dimanche dernier, mais quand l'émission passera, sans doute, ce ne sera plus le cas.
Alors, vous pouvez reprendre, c'est le texte de...
C'est le texte de Hébreu. Pratiquez l'hospitalité, n'oubliez pas l'hospitalité. Certains, en la pratiquant, ont accueilli même des anges. C'est l'histoire d'Abraham et de ses trois visiteurs qui se révèlent par la suite, plus ou moins de manière précise, être Dieu lui-même et deux anges. Mais...
Est-ce qu'on peut dire que quand nous, on accueille quelqu'un, c'est comme si on accueillait Jésus lui-même?
Je crois que si on rapproche la parole de Jésus dans Saint Matthieu, j'étais en prison et vous m'avez visité, j'étais étranger et vous m'avez accueilli. Même le mot grec veut dire vous m'avez fait entrer avec vous. Si on rapproche cela de la parole qui dit au sujet des enfants, qui accueille un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille, et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé, donc Dieu lui-même. Alors si on transpose, Jésus dit j'étais étranger. Donc si on dit « celui qui accueille un étranger comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille, et celui qui m'accueille, c'est Dieu qui l'accueille. » Donc on peut dire « Jésus, c'est l'étranger, et en accueillant l'étranger, on peut accueillir Dieu lui-même. »
Est-ce que c'est source de joie?
Je pense, comme vous avez dit, que quelquefois on peut être trompé, et à ce moment-là, c'est plutôt une source d'amertume et de tristesse. Mais si on a un a priori favorable et que... on reconnaît chez les autres des grandes qualités de cœur et d'humanité, on peut éprouver beaucoup de joie à lier amitié avec eux, oui.
C'est votre expérience?
Oui, dans beaucoup de cas. Et je peux raconter une histoire?
Oh oui.
Quand j'étais tout récemment arrivé dans ma paroisse du Nord Cameroun, j'avais un cuisinier qui faisait que le prêtre voisin m'avait conseillé de prendre, mais il n'est pas resté longtemps. Et il y avait une jeune fille qui venait avant la catéchèse pour parler avec lui, avec moi, mais surtout avec lui. Et un jour, elle est partie comme fiancée chez lui. Et les gens, les chrétiens du coin sont venus me voir à plusieurs, furieux, en disant « C'est toi qui as donné notre fille à ce jeune homme, alors que nous, on l'a destinée à quelqu'un d'autre. » Alors. Je leur ai dit d'abord que c'était pas ma coutume de donner une jeune fille en mariage. Et puis je leur ai dit, si vraiment je voulais priver votre candidat là de sa fiancée, pourquoi est-ce que j'ai accepté de lui prêter de l'argent la semaine dernière, en sachant pas du tout pourquoi c'était, mais il m'a demandé une créance et je lui ai donné. Alors là, ça a été tout de suite fini, la querelle a tout de suite été finie. Donc je pense qu'on peut passer à travers des petits conflits de ce genre et puis arriver quand même après à une grande amitié avec des gens qui ont une autre coutume.
Merci beaucoup, Père Yves Saout. Alors je rappelle que vous êtes prêtre dans le Finistère, vous êtes prêtre à Brest actuellement et que vous avez été longtemps missionnaire, surtout en Afrique et puis aussi en Amérique latine. Un grand merci d'avoir partagé avec vous votre expérience et votre goût de la parole de Dieu. Au revoir.
Au revoir, merci.